c'est mon bébé. On s'aime très fort, mais à problème. C'est tellement compliqué. Tout le monde autour de nous veut nous voir séparés. Quand j'essaye d'arranger, ils font tout pour gâcher. Oh, elle veut me pardonner. Ils vont l'en empêcher. Tous les jours, c'est eux qui parlent. Les espèces d'affaires, mais bébé, c'est toi qui les laisse faire. Si on, toi et moi,
on se connaît.
Même dans ces choses,
on se connaît.
Même dans ces difficiles,
on se connaît.
De la paix. Il est 18h. Le journal de 18h. Jean-Claude Mabéa.
Vous suivez Radio de la Paix, bonsoir et bienvenue à tous au sommaire de cette dernière édition de l'actualité sur Radio de la Paix. Arrestation en Mauritanie suivie de l'extradition d'un cyberactiviste ivoirien, le PPACI qui dénonce cette façon de faire du pouvoir d'Abidjan dit déplorer cette pratique qu'il juge de deux poids, deux mesures. Vous entendrez le député Kéidé Jean Gervais, secrétaire général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en début de ce journal. Promotion des droits de l'homme, la préparation des visites des lieux de privation de liberté par les institutions nationales des droits de l'homme et les organisations de la société civile. Les réflexions sur la particularité de ces visites sont entre autres sujets abordés au cours de l'atelier organisé du 21 au 22 novembre 2023 à Abidjan par le Conseil national des droits de l'homme en partenariat avec l'Association francophone des droits de l'homme. Assassinat d'une institutrice et son fils à Mans. Le présumé suspect toujours recherché, annonce la gendarmerie nationale. Crime condamné par le consortium des organisations de la société civile féminine qui crie son indignation. Et actualité en RD Congo, le gouvernement et l'ONU signent un plan de retrait des casques bleus. Voilà pour l'essentiel. Ce dernier bulletin d'information s'ouvre sur le dossier relatif à l'arrestation suivie de l'extradition de Steve Biko, du nom d'un cyberactiviste ivoirien. Il a été arrêté le vendredi 17 novembre 2023 en Mauritanie par les autorités sécuritaires mauritaniennes grâce à une action coordonnée avec les services de renseignement ivoiriens. Et l'affaire continue de faire grand bruit dans certains milieux en Côte d'Ivoire. C'est le cas du côté du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. Dans un communiqué, ce parti politique a dénoncé la façon dont cette extradition du cyberactiviste a été opérée. Là-dessus, écoutons l'honorable Kéidé Jean Gervais, le secrétaire général et porte-parole adjoint du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire.
Le communiqué que le PPACI a fait est un communiqué qui pose des questions d'ordre général et des principes de droit, de respect des libertés individuelles et collectives, donc du respect de l'état de droit. Nous avons déploré et même dénoncé que l'état de Côte d'Ivoire a fait un avion spécial pour aller chercher un individu, un cyberactiviste. Ce deux poids deux mesures, cette manière de procéder que nous avons dénoncé. Et dans le même temps, nous avons dénoncé qu'on ne peut pas sanctionner les conséquences sans tenir compte des causes. C'est le musellement de toute opinion contraire, que ce soit dans la presse, que ce soit au niveau politique, qui aboutit à ce genre de dérives. Et donc, le PPACI dénonce et la manière de faire d'affréter un avion spécial aux frais du contribuable pour aller prendre quelqu'un et le fait aussi de ne pas tenir compte du fait que c'est parce qu'il y a misèlement, étouffement de toute opinion contraire et donc étouffement de la liberté d'expression qu'il y a ce genre de dérives que l'on constate. Aussi plus, nous dénonçons aussi le fait que c'est à géométrie variable. Il y a certains cyberactivistes qui menacent ouvertement la vie de d'autres citoyens. Le même État ne réagit point, mais il le fait pour d'autres citoyens. Ça, ce n'est pas normal.
Nous écoutions à l'instant l'honorable Kéidé Jean-Gervais, le secrétaire général et porte-parole adjoint du PPACI. Il a été joint par Soro Adams. Vie des institutions électorales de la sous-région. Après un mandat de 2 ans à la tête de la présidence du RESAO, le réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest, Ibrahim Koulibaly-Cuibière, président de la CEI, la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire, a passé la main à Kone Mohamed, président de la commission électorale de la Sierra Leone. Il a été désigné par ses pairs hier mardi au terme de 2 jours de symposium et assemblée générale à Abidjan. Junior Cardin.
Les travaux pour les bonnes pratiques électorales en Afrique de l'Ouest, qui ont duré 2 jours, ont pris fin le mardi avec un successeur à Ibrahim Koulibaly-Cuibière, qui vient de passer 2 ans à la tête du RESAO, Réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest. Ibrahim Koulibaly-Cuibière.
Le deuxième jour était consacré à l'organisation d'une assemblée générale qui a vu naître un nouveau bureau du comité de pilotage. Ainsi donc, dans notre pratique, quand le poste est occupé par un francophone, les 2 années qui suivent le prochain mandat est exercé par un anglophone, respectant ainsi cette pratique. L'Assemblée générale a vu donc la désignation par acclamation du président Kone de la Sierra Leone. C'est lui donc qui vient à notre suite.
Son successeur, Kone Mohamed, président de la commission électorale de la Sierra Leone, a démesuré l'ampleur de la tâche.
I'm very much delighted.
Je suis heureux et honoré par mes pairs qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. C'est une grande responsabilité et je suis conscient de ce que nous devons continuer dans la mission qui est la nôtre, puisque nous sommes en charge de l'organisation d'élections libres et transparentes. Et notre rôle, c'est d'apporter le soutien nécessaire, qu'il soit logistique ou bien même technique, aux organisations de la sous-région en charge des élections. Nous comptons sous mon leadership continuer à œuvrer dans le même sens et surtout aider les populations à avoir toujours des élections libres, transparentes et équitables.
Les acteurs électoraux de l'Afrique de l'Ouest se sont donc séparés dans l'espoir de faire mieux pour les populations à travers l'organisation d'élections justes dans leurs pays respectifs.
Junior Cardin, nous le disions en titre promotion des droits de l'homme, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme et leurs différents partenaires ont pris part à un atelier les 21 et 22 novembre 2023 au siège du CNDH à Abidjan-Cocody. 2 jours durant, des représentants venus de 5 pays ont partagé leurs expériences en vue de renforcer leur collaboration dans le cadre des visites des lieux de privation de liberté. Retour sur l'ouverture des travaux avec Didier Blé.
Réfléchir sur la question des visites des lieux de privation de liberté, relever les défis, les difficultés pour finalement plancher sur la bonne pratique. C'est en substance ce qui réunit au CNDH les présidents et représentants d'institutions nationales des droits de l'homme du Bénin, RDC, Cameroun, de la France, l'Agence française de développement ainsi que plusieurs organisations de la société civile ivoirienne. Namizata Sangaré, présidente du CNDH, mais également de l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme.
Notre pays s'apprête à mettre en place un mécanisme de recours devant lequel peuvent déférer tous ceux qui sentent leurs droits froissés et autres. Et donc, il était bon pour nous de chercher à faire implémenter ce projet ici pour nous inspirer des bonnes pratiques à l'effet d'installer notre mécanisme.
Cet atelier permettra d'affiner certaines règles. Serge Aboudjan de la Commission béninoise des droits de l'homme et Chantal Ayemou du RIDEF.
Cet atelier nous permettra de renforcer notre participation, d'affiner les règles,
faire un peu l'état des lieux, voir un peu ce qui se fait ailleurs et puis à travers cela, essayer d'améliorer notre façon de travailler.
Les débats ont également porté sur les principes de Paris. Michel Forst, secrétaire général de l'Association francophone des commissions de droits de l'homme.
Les principes de Paris, qui ont été adoptés en 1993, régissent le fonctionnement et la création des institutions nationales des droits de l'homme. Et ces principes sont revus régulièrement. Et si elles sont conformes aux principes de Paris, elles sont classées A. Et si elles ne sont pas conformes, alors elles sont déclassées B. Et donc elles ne peuvent plus avoir accès aux Nations Unies.
Notons que dans le cadre de l'appropriation des principes de Paris, des institutions nationales des droits de l'homme possèdent un mandat élargi avec des attributions du mécanisme national de prévention de la torture.
Reportage signé Didier Blé. Poursuivons ce journal en parlant de la gouvernance des entreprises publiques et des innovations liées aux missions des commissaires aux comptes. Le ministère du patrimoine et du portefeuille de l'État a organisé à cet effet un séminaire d'échange avec les experts comptables sur le thème « Gouvernance des entreprises publiques, quelle contribution des commissaires aux comptes ?» Procédant à l'ouverture du séminaire, préliminaire, le ministre Moussa Sanogo a exhorté les experts comptables et commissaires aux comptes à s'impliquer davantage dans l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques. Nous l'écoutons sur les raisons de l'importance de ce séminaire.
Un moment important dans notre quête d'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques. En effet, au cours de cette rencontre, l'occasion nous sera donnée d'échanger sur des problématiques liées à la gouvernance des entreprises publiques à travers l'analyse de la contribution des experts comptables à cette question. La rencontre de cet après-midi permettra de partager la vision et les perspectives de l'État actionnaire en matière d'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques et de recueillir vos contributions bien avisées. Mesdames et messieurs les experts comptables, votre rôle d'alerte et de conseil dans la vie des entreprises publiques est assez singulier. Il nous permet de renforcer la transparence dans les opérations des entreprises publiques et de disposer de leviers d'optimisation des performances.
C'était le ministre Moussa Sanogo en charge du patrimoine et du portefeuille de l'État à l'instant sur Radio de la Paix. L'actualité nationale est marquée par l'assassinat de Dame Keke Loyoto Christelle Flavie, institutrice à Gbatongouin, un village de Man qui était en grossesse, et son fils Kwame Kwasi Moye Stéphane Samuel de 7 ans. Ils ont été retrouvés égorgés le lundi 20 novembre 2023. Et une grande marche pacifique des enseignants a été organisée le mardi à Man pour exprimer leur tristesse et indignation. Après avoir reçu les enseignants mécontents au terme de leur marche, le préfet de région du Tongpi, préfet du département de Man, Wamblignon Célestin, appelle au calme, à la retenue et promet que la lumière sera faite sur ce drame, nous apprend Stéphane Adams, notre correspondant régional dans le Tongpi.
Les enseignants dans le Tongpi ont observé un arrêt des cours ce mardi suite au drame de l'une des leurs à Gbatongouin. Ils ont investi la préfecture de Man pour se faire entendre la substance de leur cri de cœur avec le porte-parole.
Nous demandons que la lumière soit faite sur les circonstances du décès tragique et horrible de notre collègue et que le ou les coupables soient appréhendés afin qu'ils subissent toute la rigueur de la loi.
Le préfet des régions du Tongpi, préfet du département de Man, Wamblignon Célestin, face aux enseignants, a exprimer la compassion de l'État ivoirien, plaider pour la reprise des cours et promet que la lumière sera faite.
Je vous remercie d'être venu pacifiquement me rencontrer, me porter l'information sur cet assassinat que j'avais déjà, mais surtout me venir me signifier la profonde tristesse qui vous anime. C'est ce que je constate. Soyez forts, soyez fortes. Ce qui est arrivé est abject. Ce qui est arrivé est abominable. C'est pourquoi il est important que désormais des mesures soient prises, même au niveau du recrutement, qu'il y ait des enquêtes de moralité. Et donc, Madame Le Drain, si les cours peuvent vaquer aujourd'hui, c'est une bonne chose. Nous avons des enfants qui sont des vôtres, nous avons des frères, des amis et autres. Et je voudrais vous dire, chers amis, que cela est vraiment terrible pour nous tous. Soyez forts, relevons-nous et ensemble menons les enquêtes pour qu'elles aboutissent. Je vous remercie.
Les enquêtes font état de l'arrêt du meurtrier selon les sources bien introduites. Stéphane Adams, Man, Radio de la Paix.
Aux dernières nouvelles, ce présumé auteur de l'assassinat est toujours recherché par les services de la gendarmerie nationale. L'information a été consultée sur la page de la gendarmerie ce mercredi 22 novembre 2023, annoncé comme interpellé et mis aux arrêts hier mardi et repris par certains confrères de la presse. Cette information de la gendarmerie vient démentir cette interpellation. C'est pourquoi le consortium des organisations de la société civile féminine crie son indignation suite à ce crime crapuleux. Pour Marie-Flore Bégou, la coordinatrice nationale du dit consortium, il faut redoubler de vigilance car l'environnement de la gente féminine est menacé. Écoutons Marie-Flore Bégou.
Alors nous avons été choqués parce que c'est une jeune dame dynamique. Elle était la caissière de la mutuelle des instituteurs de cette école. Alors donc notre choc est encore grand parce que c'est pas le premier acte criminel qui est commis sur les femmes. Nous avons le cas d'Azopé où le monsieur a découpé à la machette, a sectionné les membres de sa femme. Et là encore, on vient d'apprendre avec amertume ce cas criminel parce que ça c'est un crime prémédité. La sécurité dans l'environnement féminin est menacée. Et il faut souligner que cette institutrice qui a été égorgée portait une grossesse. Donc elle est la grossesse et son fils de 7 ans qui est en classe de CE1.
Le consortium des organisations de la société civile féminin a condamné cet état des faits. Donc comment est-ce que cette condamnation se manifeste?
Déjà dans un premier temps, nous avons crié déjà notre indignation, mais les jours à venir, nous comptons mener un certain nombre d'actions. D'ici lundi, nous allons créer une minute de silence à partir de 12 heures avec des bandeaux noirs sur nos poignets en la mémoire de cette femme et son fils.
Marie-Flore Bégou, la coordinatrice nationale du consortium des organisations de la société civile féminine, a été jointe par Constant Maïli. Demain, on met le cap sur Korogo où la mise en place d'une unité industrielle de transformation de la mangue dans le bassin de production au nord de la Côte d'Ivoire apparaît comme une opportunité pour conquérir une part importante des marchés des produits à base de mangue au niveau du pays, dans la sous-région, à l'exportation et bien plus encore. Avant l'implantation de cette unité de transformation, des études de faisabilité ont été menées et consignées dans un rapport qui a été présenté aux acteurs de la filière mangue, aux parties prenantes du projet et aux partenaires techniques et financiers le mardi 14 novembre dernier à Korogo, nous dit Marcel Bonny, notre correspondant sur place.
La réponse aux pertes post-récolte après chaque campagne de la mangue réside dans l'implantation d'une unité de production et de transformation, en plus d'autres avantages énumérés par Messou Edja, coordonnateur du programme d'appui au développement des filières agricoles.
Nous avons ambition de mettre en place une unité de transformation de la mangue de plus de 10 000 tonnes, ce qui va réduire les pertes post-récolte et créer de la valeur, de la richesse pour les producteurs qui auront des débouchés pour leurs produits et aussi créer suffisamment d'emplois, 300 à 400 emplois directs et à des milliers d'emplois indirects.
Des études de faisabilité articulées autour de 4 points présentées aux acteurs de la filière par Dieudonné Manirakiza, administrateur du cabinet chargé de mener les études, accompagnant cette implantation.
Avant tout, c'était de s'assurer de la matière première. Deuxièmement, il fallait s'assurer qu'il y a un marché. Le troisième indicateur, c'était de s'assurer si on peut avoir de la technologie. L'autre facteur qui restait, c'était de s'assurer qu'il y aura un financement.
Un projet salué par les acteurs de la filière, à l'instar de Yeomewa René, deuxième vice-président de l'interprofession mangue de Côte d'Ivoire.
Nous avons une grande quantité de mangue produite dans la zone de production ici qui ne pourra pas être absorbée par la seule unité. Donc il y a encore de la place pour tout le monde. Au contraire, ça vient pour aider les producteurs, pour aider l'interprofession mangue.
Notons que le projet d'implantation de cette unité de transformation est estimé à près de 14 milliards de francs CFA et nécessite des partenaires techniques et financiers pour sa mise en œuvre en 2024. Marcel Bonny, Korogo, Radio de la Paix.
À l'initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie, en partenariat avec le COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, il a été organisé le vendredi 10 novembre 2023, la finale du concours de chant et de toile en lien avec les symboles de la ville de San Pedro. À l'issue de ce concours, les meilleures productions permettront de mieux vendre San Pedro aux visiteurs qui viendront pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Des détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bas-Sassandra.
Démarré il y a 2 mois, les compétiteurs avaient pour mission de présenter des productions visant à mieux vendre la destination San Pedro. Un objectif atteint selon Kwame Kwaku, directeur régional de la culture et de la francophonie à San Pedro.
Il était question que nos artistes fassent preuve de créativité en convoquant dans leur création les éléments qui ont trait à l'esprit de paix, d'hospitalité. Au niveau de la toile, il fallait recourir aux symboles forts de la région de San Pedro, c'est-à-dire du porc, du clé, du cérémonial, la queue à la cola. Et il s'agira pour les organisateurs du concours d'exploiter l'œuvre du premier pour fabriquer des gadgets, t-shirts, des casquettes qui permettront à ceux qui sont venus de loin de partir d'ici avec un souvenir. Au niveau de la chanson, nous avons un arrangeur qui va travailler sur l'œuvre. Toutes les fois que les mics vont se passer, c'est les chansons qu'on va faire passer.
Préfice Kochadan a remporté le prix de la meilleure toile avec une écriture artistique particulière donnant sur le même tableau plusieurs décors ou expressions selon la position du tableau.
L'authenticité et la créativité font mettre l'humain de soi-même. Quand vous dans cette dynamique, c'est sûr qu'on vous prendra plus au sérieux que de vous voir comme le maître qui copie l'élève ou l'élève qui copie le maître. Les critères de concours, fallait puiser dans la source du patrimoine culturel du pays Kourou, les potentialités qui y regorgent, afin de faire sortir un message, le message de cohésion, de fraternité. Et c'est ce que j'ai fait.
Quant à la chanson, le premier prix est revenu à l'artiste Cheikh Titi qui envisage mieux vendre la ville de San Pedro.
Être un gagnant, c'est donner une bonne image à la ville. Et ce prix va me permettre de booster mon album que je suis en train de faire actuellement.
Tout Tout est donc mis en œuvre pour susciter la destination San Pedro. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Nous ouvrons maintenant la page de l'actualité internationale qui nous conduit en République démocratique du Congo où la mission de maintien de la paix de l'ONU MONUSCO en RDC a déclaré ce mercredi qu'elle avait signé avec le gouvernement un plan de retrait de ses troupes sans donner plus de détails sur le calendrier. Dans son communiqué, la mission de l'ONU présente en RDC depuis 1999 parle d'un retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable du pays. La note contient également un plan et un calendrier de retrait, mais la MONUSCO n'a donné que peu de détails, se contentant d'indiquer qu'il sera mis en œuvre en trois phases, nous apprend l'agence France Presse. Et puis, rebondissement dans le procès de l'ex-champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius. Condamné pour le meurtre de sa petite amie il y a 10 ans, son avocat espère qu'il sortira le plus rapidement possible de prison s'il bénéficie d'une libération conditionnelle. Âgé de 37 ans, Oscar Pistorius sera présenté le vendredi prochain devant une commission de libération conditionnelle dans la prison proche de Pretoria où il est actuellement détenu. Le meilleur scénario serait une libération immédiate, a déclaré mercredi à l'AFP Conrad Dormel, son avocat, l'avocat de l'ex-athlète, c'est-à-dire dès ce vendredi. Des experts juridiques et avocats de la famille de la victime ont pour leur part déclaré à l'AFP que si la libération conditionnelle était accordé, il pourrait s'écouler des semaines avant une libération effective. C'est sur cette information que prend fin cette dernière édition de l'actualité. Voici le rappel de l'essentiel. Arrestation en Mauritanie suivie de l'extradition d'un cyberactiviste ivoirien, le PPACI, qui condamne, sinon qui dénonce cette façon de faire du pouvoir d'Abidjan, dit déplorer cette pratique qu'il juge de deux poids, deux mesures. Vous avez entendu le député Keïdé Jean Gervais, secrétaire général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en début de ce journal. Assassinat d'une institutrice et son enfant amant, le présumé suspect toujours recherché, annonce la gendarmerie nationale. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Radio de la Paix. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain jeudi 7h. Excellente soirée à toutes et à tous.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion. For all the guys and girls where they like to stand and dirty, the shy will come.